Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Un deuxième tour plus serré pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Alors que les partis traditionnels, la gauche et la droite de gouvernement, sont tout bonnement en train de disparaître, l'Info C'est clair est intitulé Macron-Le Pen, le match retour. Nos invités, Caroline Michel-Aguirre, vous êtes grand reporter au service politique à l'Obs, auteur des Infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, avec Mathieu Aron, c'est aux éditions Alary. Claude Veil, vous êtes chroniqueur politique, et Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express, auteur du Radicalisé, enquête sur Éric Zemmour, c'est aux éditions du Seuil. Merci de participer à cette émission en direct.
Très bon livre.
Très bon livre.
Merci.
Et on va en parler.
Ah,
justement,
les deux.
Les deux. Et le vôtre, on l'attend ?
Oui.
Bon. D'abord, un commentaire, Caroline Michel-Aguirre, un commentaire. Comme tout le monde, vous avez regardé la soirée, hier soir électorale, sur France Télévisions, d'ailleurs, puisqu'on était les seuls à la couvrir en longueur. Quels enseignements vous en avez tirés ? Quand vous avez vu les résultats tomber, est-ce qu'il y a eu un effet waouh ? Et en fin de soirée, quel bilan vous en avez tiré ?
Moi, j'ai trouvé que les électeurs avaient été très logiques. D'abord, ils avaient. Quand vous regardiez les programmes, il y avait des programmes qui étaient redondants. À droite, Macron-Pécresse, c'était assez proche. À la droite de la droite, Le Pen-Zemmour, c'était assez proche aussi. Et finalement, plutôt qu'éparpiller leur vote, ils les ont concentrés en entendant ce que tous les commentateurs disaient, en disant « il faut voter utile, entre guillemets, si vous voulez que votre candidat émerge ». Ça, c'est ce qui m'a semblé. Le poids de l'expérience aussi, parce qu'il faut quand même souligner que les trois sur le podium, si je peux parler en termes sportifs, sont trois qui ont l'habitude, l'expérience des campagnes présidentielles. Et on a vu que pour les novices, entre guillemets, ça avait été très difficile. D'ailleurs, ils se sont beaucoup ramassés, si je puis le dire comme ça. Et puis, un dernier point sur la mobilisation, on pourra y revenir. On craignait une forte abstention, elle est forte, mais peut-être pas aussi forte qu'on pouvait le penser. Donc, malgré tout, les Français restent attachés à
ce
scrutin.
En France, on vote plus que dans les autres pays, hein. Il faut quand même le souligner. Claude Veil, même question. Quel bilan et enseignement avez-vous tiré de ce premier tour ?
Dans d'autres termes, je ne dirais pas une chose différente. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a évidemment trois candidats qui, je dirais, surperforment. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de l'étiage qu'on attendait, tout simplement parce que les électeurs, en effet, ont totalement intégré la logique du scrutin à deux tours. Ils ont fait, je dirais, d'une certaine façon, c'est l'anti-2002. En 2002, tout le monde faisait ce qui lui plaît au premier tour. Et le résultat, c'est que Jospin s'est fait sortir. Et que
on a retenu la leçon, d'ailleurs.
Et que la France, dans son inconscient collectif, a retenu la mémoire. Et là, les gens se sont dit, si je suis vraiment de droite et que je pense que les problèmes de la France, c'est l'immigration et que Macron, c'est plus possible, je vais voter Le Pen. Ouais. Si je pense qu'un autre monde est possible, même si j'ai des nuances avec Mélenchon, je vais voter Mélenchon. Et si je pense que la France a un avenir dans l'Europe, etc., et que Macron n'a pas si mal géré tout ça, je vais voter Macron. Le résultat, c'est que tout ça a totalement essoré les partis dits de gouvernement, qui sont devenus des partis résiduels. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas la réalité de leur potentiel électoral. Il y a un problème d'incarnation, évidemment.
Vous ne les enterrez pas, les partis traditionnels.
En France, rien ne meurt jamais. On ne peut pas enterrer Mme Pécresse, le parti les Républicains, ni le Parti Socialiste. Il y a un problème d'incarnation, c'est-à-dire des mauvaises candidates. Je suis désolé d'avoir à le dire, et ça n'a rien de misogyne de dire ça. Mais souvenez-vous qu'il y a un an ou deux, aux élections régionales, ils ont cartonné, ils ont pris les trois quarts des grandes villes. Et peut-être que demain, si on votait au municipal, le Parti Socialiste, le Parti Socialiste ou les écolos continueraient à gagner à Bordeaux, à Lyon, etc. Il y a évidemment l'élection présidentielle, le croisement de l'idéologie du consommateur électeur et de la présidentialité de l'offre. Je connais plein de gens qui sont très très écolos, mais qui ne voient tout simplement pas Jadot président. Donc ils se sont dit, dans le doute, on va aller sur Mélenchon, qui a à peu près le même programme sur l'environnement. Voilà, c'est tout ça qui a cristallisé, avec un truc très très important du point de vue de la sociologie électorale, et c'est là-dessus que les partis politiques devraient réfléchir, c'est qu'en gros, les 18-35, c'est Mélenchon qui arrive en tête, c'est un autre monde possible. Sur les 35-65, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête. C'est la France du travail qui trouve que ça va pas, que les salaires sont trop bas, etc. Et les plus de 65 ont voté massivement pour Macron.
Ah, et ça, c'est
avec
incroyable.
Cette espèce de paradoxe qui est que ce président qui est supposé incarner de la foi en l'avenir, le
côté...
plaît le plus à ceux dont l'avenir est derrière.
Parce que voilà. C'est la stabilité, quoi. C'est ça qu'il incarne. Étienne Girard, avant d'entrer dans le vif du sujet, un commentaire général aussi sur ce premier tour.
Un mot sur les retraités. C'est quand même extrêmement saisissant. Sans les retraités, Emmanuel Macron n'est pas qualifié pour le second tour.
Ah, c'est incroyable.
Et oui. Et ça peut poser des questions ensuite sur la manière dont va se passer le quinquennat. Quand on a à son programme, par exemple, une réforme des retraites, disons ambitieuse ou en tout cas résolue. Plus globalement.
Les retraités, ils sont pour la retraite à 65 ans, puisque
oui,
ça ne les concerne pas.
Ça ne les concerne pas. Mais justement, donc Emmanuel Macron s'est qualifié grâce à des gens qui ne sont pas concernés par une des mesures phares de son programme. Voilà. Ça pourra avoir des conséquences. Plus globalement, hier, c'était une grande clarification, effectivement, autour de trois candidats qui représentent trois familles idéologiques, où chacun a gagné sa primaire à son échelle, finalement, et de façon extrêmement spectaculaire et cruelle. Macron a gagné la primaire de la famille du libéralisme économique. Il a écrasé Valérie Pécresse. Marine Le Pen, de la même façon, a gagné la primaire du nationalisme. Elle a écrasé, finalement, Éric Zemmour, après lui avoir résisté, avoir semblé chavirer, mais pas du tout. Pas du tout. Et Jean-Luc Mélenchon, exactement de la même façon, après avoir été en recul pendant toutes les élections intermédiaires, il fait même mieux que son étiage d'il y a 5 ans et il s'affirme à cette élection. En tout cas, on verra ce qu'il en sera demain. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, mais comme l'unique représentant de la gauche. Et il écrase totalement Europe Écologie Les Verts et Anne Hidalgo. Ce qui veut dire que ce qui a plu aux électeurs, ce qui a pris, c'est peut-être la densité personnelle de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est aussi sans doute l'orientation de sa campagne, c'est-à-dire en termes de hiérarchie de sujets, le pouvoir d'achat avant le climat, l'écologie.
Alors, on commence par Marine Le Pen, qui, dans son discours hier, se montrait rassembleuse et très apaisée. On écoute la présidente, enfin, ou la candidate du Rassemblement national.
J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le troisième millénaire. Vive la République, vive la France!
Caroline Michel-Aguirre, c'est incroyable comme on a une Marine Le Pen qui a appris à sourire et qui l'utilise désormais. Ce matin, Libération titre, cette fois-ci, ça craint vraiment. Après un quinquennat marqué à droite, le barrage sera plus difficile. Alors notre sondage donne quand même Emmanuel Macron vainqueur à 54% au second tour.
Oui, enfin... On verra, ce sera certainement serré parce que en dynamique, avant le premier tour, je vous rappelle que Marine Le Pen n'a cessé de monter et Emmanuel Macron n'a cessé de descendre. Donc on verra dans deux semaines. Marine Le Pen a incroyablement appris de ses erreurs de la dernière fois. Le discours d'hier était et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est de me dire qu'elle avait tout prévu depuis 5 ans au moment où elle change le nom du parti en Front. Qui était vraiment quelque chose d'opposition, où on faisait barrage à l'immigration, hein, pour le dire si simplement, à rassemblement. Et là, on voit très bien dans son discours d'hier, où elle ne réactive aucun des marqueurs, ou très très peu, de l'extrême droite, qui sont pourtant très présents.
Elle parle dans son, quasiment pas d'immigration.
Pas du tout, elle fait des allusions, mais vraiment sur la France millénaire, etc. Mais il faut être vraiment dans ce logiciel-là pour comprendre les allusions. En revanche, elle parle à son nouvel électorat, ce bloc populaire d'ouvriers, d'employés, de ruralité, de gens dont elle a senti, mais bien avant tout le monde, incroyable sens politique, qu'ils étaient complètement impactés par les questions de pouvoir d'achat. Et on a vu en réponse Emmanuel Macron dans son discours sur lequel on reviendra, essayer de se raccrocher à cette thématique. Mais là, pour l'instant, c'est elle qui, sur la thématique, dont elle a complètement gommé, on l'a dit mille fois, mais c'était encore plus vrai hier, où elle a même un moment, elle dit, le rassemblement, c'est nous, et la discorde, c'est en face. complètement renverser tous les marqueurs habituels de l'extrême droite et de ce qu'elle incarne historiquement.
Étienne Girard, on parle d'un nouveau duel et c'est vrai que, alors, quelle sera l'importance du débat de l'entre-deux-tours? Est-ce qu'il ne va pas hanter ces 15 jours à venir? On sait qu'il avait été catastrophique en 2017. Oui. Elle doit réviser.
Ah oui.
Là, il y a du média training.
Évidemment, le débat est extrêmement important parce que tout le monde l'attend au tournant. Les citoyens, les premiers, j'ai déjà un certain nombre de gens, moi, qui m'ont dit « Ouh là là, j'ai hâte d'être le jour du débat, de voir si elle tient la route ou pas ». Alors ça, c'est à double tranchant. Évidemment, on lui pardonnera absolument pas un deuxième échec. Mais à contrario, si elle arrive à faire, d'une certaine façon, simplement jeu égal avec Emmanuel Macron, ben on considérera qu'elle a fait mieux que la dernière fois. Et donc, ça jouera en sa faveur. Donc là-dessus, finalement, elle ne peut pas faire pire. Donc, l'enjeu est assez revigorant pour elle, puisqu'il suffira de faire match nul pour qu'on considère qu'elle a bien réussi son débat, ça ne suffira pas pour gagner. Un débat réussi, jeu égal, avec Macron, ça ne suffit pas pour passer de... Alors même si vos estimations, c'est 46 plutôt à l'étiage bas, pour franchir la barre des 50%, il faudra forcément qu'Emmanuel Macron, de son côté, fasse quelques erreurs ou voilà, brouille son image pour saisir cette dernière marche vers le pouvoir pour Marine Le Pen.
Claude Veil, on sait que Marine Le Pen a dédiabolisé et réussi son œuvre de dédiabolisation. En revanche, la semaine dernière, sur les marchés financiers, il y a eu une alerte. Elle a fait la une des Échos. Les taux d'intérêt se sont mis à bondir en France. On sait que nos voisins européens s'inquiètent aussi. Et si c'était elle, il est 20h, Marine Le Pen est élue présidente de la République. On mesure mal le choc que ça pourrait créer.
C'est tout à fait clair que nos partenaires et alliés votent Macron.
Joe Biden l'a déjà dit. Hein.
Sur la scène internationale, qui vote Le Pen? J'ose à peine le dire parce que j'aurais l'air de faire de la propagande, mais c'est Orban et Poutine, quoi. Mais tous les pays démocratiques autour de nous, et l'Union européenne, les Allemands, lisez la presse allemande de ce matin, tout le monde dit « Mon Dieu, pourvu que Le Pen ne gagne pas ». Les milieux économiques, évidemment, vous l'avez dit. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu
une alerte.
Il y a eu un coup de feu là-dessus. Le problème de Marine Le Pen, aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est de réussir son second tour, c'est-à-dire devenir encore plus qu'elle n'a été au premier tour, un agrégateur de mécontentements. Il y a les mécontentements de gauche, les mécontentements gilets jaunes, les mécontentements anti-système. Il faut qu'elle essaie de rassembler tout ça en expliquant que son élection, en gros, c'est le passage de l'ombre à la lumière. Elle a un programme incroyablement redistributeur. C'est vraiment, il y en a pour tout le monde. Hein. C'est la galerie Farfouillette. La difficulté pour elle, ça reste quand même que, contrairement à ce que vous disiez, je ne voudrais pas vous contredire, le Front républicain, ça existe encore un peu.
Plus que le tout sauf
ça
Macron.
Ça n'est plus une ligne Maginot, mais ça existe encore un peu. Je vous rappelle quand même que hier soir, si vous avez écouté comme moi les réactions à chaud des politiques, j'entends Mme Bateau, j'entends M. Poutou, j'entends Mme Pécresse, il y a quand même l'idée que l'essentiel est en jeu, que si Marine Le Pen l'emportait, ça serait une transgression par rapport à nos normes démocratiques, ça serait une menace pour l'économie française, et ça serait une menace pour l'Europe. J'entends même quelqu'un qui est un vrai Macron-hater, comme Luc Ferry ce matin, qui déteste Macron comme il n'est pas permis, mais qui quand même dit « je voterai Macron » parce que Le Pen, c'est absolument impossible, c'est vraiment un sol élastique sans élastique. Donc, quand on dit que le Front républicain n'existe pas, j'ai encore un petit doute là-dessus. C'est un vote qui est compliqué parce qu'il est très clivé socialement. C'est évident que les villes voteront Macron et que les petites villes qui se sentent délaissées, abandonnées, les campagnes voteront Le Pen. C'est évident que le Sud-Sud, le Grand Sud et le Grand Est et le Grand Nord voteront Le Pen, parce que ce sont des régions qui se sentent abandonnées par Paris et que le Grand Ouest et le Sud-Ouest voteront plutôt pour Macron. Donc c'est un vote qui est compliqué parce qu'il est, enfin, qui est en balance, parce qu'il est très, il porte beaucoup de choses du point de vue culturel, social, économique. Mais d'une certaine façon, c'est quand même le remake de ce qui se joue depuis 20 ans en France, et je dirais depuis le référendum sur l'Europe, c'est-à-dire la France européenne ouverte à la libre concurrence, aux libre-échangistes, progressistes, comme on dit, contre la France nationaliste, souverainiste, et la France d'en bas qui a l'impression d'être incomprise et méprisée par la France d'en haut. C'est le même duel qui se joue depuis 20 ans en France.
Alors la différence avec 2017, c'est que là, Emmanuel Macron se présente pour une réélection, pour un second mandat. Donc évidemment, il y a moins de nouveautés, il n'y a pas la disruption comme il pouvait y avoir en 2017. Et c'est pour ça que le chef de l'État a promis hier, et alors c'était assez évasif et interrogatif, a promis une nouvelle façon de gouverner. On écoute Emmanuel Macron.
Mais dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation, plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir.
Alors, Caroline Michel-Aguirre, qu'est-ce que vous avez compris dans cette nouvelle façon de gouverner, de tendre la main ? C'est quoi ? C'est un accord de coalition comme en Allemagne, là où on...
Alors, moi, je vais vous dire, j'ai attentivement écouté le discours d'Emmanuel Macron hier soir. Je n'ai rien retenu. J'ai trouvé ça incroyablement creux. Il n'y avait pas de réaction à la... Ne serait-ce que pour parler de ses adversaires directs, il a cité tout...
Il les a tous cités, c'était bizarre, ça.
Oui.
Pour les remercier.
Sauf, oui, ceux qui avaient... Ouais, il a cité tout le monde, mais il n'a pas parlé de la poussée de Marine Le Pen, alors que c'était un de ses engagements de faire obstacle à la montée du Front National. Il n'a pas parlé de cette poussée à gauche qui est quand même extrêmement réelle autour de Jean-Luc Mélenchon. Et surtout... Moi, j'ai eu l'impression qu'il découvrait son discours, qu'il n'y avait pas de conviction, qu'il n'était pas là. C'était vraiment pendant deux semaines, trois semaines, on nous a dit qu'il n'arrivait pas à rentrer en campagne parce que le contexte international, la guerre en Ukraine, et on voulait bien le croire. Mais hier soir, on était au premier tour de l'élection présidentielle. Moi, j'ai eu l'impression d'un candidat qui n'était pas incarné par le président, comme si le candidat était là, mais le président avait la tête toujours ailleurs. C'était pas concret. Il nous a parlé d'un nouveau projet, d'un nouvel élan. Et moi, je dirais, en contradiction avec ce que vous disiez, son projet ne s'adresse plus de 65 ans aujourd'hui, parce que cette réforme des retraites dont il nous parle, qui est en gros la seule mesure qu'on a retenue avec le fait de travailler pour le RSA, ça, Richard Ferrand l'a encore expliqué ce matin, c'est pour financer des mesures sociales pour le grand âge, etc. Donc on a l'impression d'un discours qui s'adresse aux plus de 65 ans, sans rien autour. Et franchement, je ne sais pas répondre à votre question. Soit il faut qu'il nous révèle sa carte cachée, soit il va falloir qu'il se dépêche dans la Macronie d'avoir un projet. Parce que pour l'instant, je ne sens pas d'élan.
Étienne Girard, il y a un risque de démobilisation. Parce qu'hier, il est apparu comme le vainqueur avec son 28% à un moment où on se disait, tiens, ils vont être à touche-touche, voire Marine Le Pen va être en tête.
Oui, absolument. Sur les dernières semaines, on a eu l'impression d'un affaissement d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas le cas. Le pari, il est réussi. C'est le premier président à améliorer son score entre deux élections depuis Mitterrand en 88. Et lui, c'est sans passer par une cohabitation. Donc c'est un tour de force qu'a réussi Emmanuel Macron dans une campagne qui, assez, oui, étonnante de sa part, parce qu'il n'est pas du tout descendu dans la mêlée. Il n'a pas vraiment mené campagne. On peut le regretter pour des raisons démocratiques. En tout cas, les électeurs ne lui ont pas du tout tenu rigueur. Donc, lui, logiquement, poursuit dans cette stratégie au-dessus de la mêlée. Il ne croit pas tellement, de toute façon, au projet, au programme. Il pense que, dans un quinquennat, de toute façon, il y a des imprévus, que ce qu'il faut donner, c'est une orientation générale. Bon, cette orientation, on la connaît. C'est du libéralisme économique et une France, disons, tournée vers l'avenir, voilà, c'est ça qu'il veut incarner et proposer aux Français, Emmanuel Macron. Il n'y aura pas plus. Et pour faire plus de 50% des voix, bah, il vise le barrage. Le barrage à Marine Le Pen. Et oui, je serais plutôt de votre avis. C'est-à-dire que le tout sauf Macron et le barrage se sont étiolés en 5 ans. Donc Marine Le Pen a toutes les chances de faire un meilleur score qu'il y a 5 ans. Est-ce que les Français sont aujourd'hui mûrs pour donner les clés d'un pays à Marine Le Pen? Je regarde tous les indicateurs. Non, c'est pas ce qui est indiqué. Quand vous regardez les reports de voix de Valérie Pécresse ou de Jean-Luc Mélenchon, même s'il y a des déperditions, la majorité des électeurs disent quand même qu'ils vont voter Macron. Et c'est, si c'est ça qui se passe, Emmanuel Macron sera réélu président de la République.
Donc Claude Veil, il peut se permettre une campagne un peu à minima, avec un drapeau européen qu'on agite. L'effet drapeau, guerre en Ukraine, et ça devrait passer.
Il est d'une certaine façon condamné à faire une campagne en même temps piste, ce qui est ce qu'on lui a reproché, mais qui en même temps est le génotype du macronisme. Tout le monde hier soir lui disait « je veux bien voter pour vous à condition que vous fassiez un pas vers moi », mais c'est un tout petit peu compliqué. Je disais ce matin un tweet d'une sociologue que je connais bien, qui était mélenchoniste et qui dit « je veux bien voter pour vos second tour à condition que vous mettiez la retraite à 60 ans et le RIC, etc. » Oui, mais à ce moment-là, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et de l'autre côté, évidemment, on lui dit « donnez des gages à la droite ». Donc, il a inventé cette idée hier soir de maison commune. Je sais en effet pas très très bien ce que ça veut dire, la maison commune.
Vous n'avez pas compris, vous non plus, la
campagne. C'est-à-dire que si son idée, c'est de faire un meeting avec Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, il faut oublier.
Surtout qu'il l'a déjà fait au premier tour
Déjà au premier tour, il est allé très loin à gauche en récupérant Reb Zaman et compagnie, et à droite avec Raffarin.
J'avais cru comprendre que plutôt que c'est-à-dire de gouverner carrément avec le bloc socialiste à l'Assemblée nationale et carrément avec le bloc LR à l'Assemblée nationale. Un peu comme les contrats de coalition, ce qui se passe en Allemagne.
Après, on pouvait lire en filigrane, en effet, une anticipation sur les sud des législatives.
Voilà.
La difficulté, c'est que nous sommes en France dans un scrutin majoritaire, qui est un scrutin qui fonctionne par des effets de carène liquide. Ça bascule à gauche, à droite, et vous ne savez jamais où ça va s'arrêter. En toute logique, ce que serait l'intérêt d'Emmanuel Macron dans une France qui ressemble à un... Comment ça s'appelle? Un
kaléidoscope.
Un bateau à trois coques.
Un trimaran.
Qui ressemble à un trimaran.
Heureusement qu'il y a Caroline, vous êtes marin.
Son intérêt tactique, évidemment, serait de réussir à constituer une coalition qui serait clairement identifiée avec une composante de gauche, une composante de droite qui pourrait être dirigée par Emmanuel Philippe, etc. Sauf que notre mode de scrutin ne se prête pas tellement à ça et qu'il n'a pas le temps d'instaurer la proportionnelle avant, puisqu'on va voter forcément avec l'ancien mode de scrutin. Donc c'est toujours compliqué en France de créer des coalitions. En plus, elles sont toujours indociles et bordéliques. Donc,
parce que justement, vous le disiez, alors imaginons, il est élu, mais aura-t-il une majorité ensuite à l'Assemblée nationale? La droite, les députés de droite disent hors de question qu'on se rallie comme ça individuellement à Emmanuel Macron. Nous ferons bloc tous ensemble et on imposera nos conditions à Emmanuel Macron. Je vous décode, et vous me direz si j'ai bien décodé, ce qu'a dit hier Jean-François Copé sur le plateau de France 2. On l'écoute, Jean-François Copé, pour le Parti des Républicains.
Pour un nouveau pacte gouvernemental, il faut que la droite de gouvernement y soit associée, mais pas en allant à Canossard, pas en renonçant à toute son identité, pas de tout ça. L'idée, c'est qu'on reste ce que nous sommes et que nous soyons désormais un élément clé pour transformer ce pays.
Alors, Caroline Michel-Aguirre, est-ce que là, LR se dit, bon, les élections présidentielles, c'est perdu, mais on a un coup à jouer aux législatives, peut-être qu'on va imposer une cohabitation à Emmanuel Macron.
Alors d'abord, prenons garde à ne pas enjamber le second tour. Je redis ce que
je me mets du point de vue de LR. Ils ont tout perdu, on verra après Valérie Pécresse.
Je vais y venir, mais malgré tout, je pense que le match est très serré, que même si le Front républicain existe encore, je ne suis pas sûre qu'il va être si automatique. D'accord. Et notamment, pour en venir à votre question, la clé se trouve dans le report de voix de Valérie Pécresse. Or, on a très bien entendu hier, et ça va répondre à votre question, que le corps républicain est divisé. Et on comprend mieux aujourd'hui, ce matin, l'échec d'une certaine manière de Valérie Pécresse, au-delà peut-être de son incarnation, de son meeting raté, etc. C'est qu'on comprend aujourd'hui qu'elle a essayé de tenir le bout entre un centre-droit et un Éric Ciotti dans sa campagne. Elle n'y a pas réussi. Ça explose ce matin parce qu'il y a des Jean-François Copé et d'autres qui disent « on est prêt à travailler avec Macron », mais des Éric Ciotti qui ont en creux dit qu'ils appelleraient à voter Marine Le Pen. Donc le problème des Républicains aujourd'hui, c'est que s'ils acceptent cette coalition qui n'est un, pas la nature de la Ve République et deux, pas la nature d'Emmanuel Macron qui depuis le début, hormis le MoDem, a fait beaucoup de débauchages individuels, mais qui a fait en sorte qu'aucune force vienne contrebalancer, aucune force politique constituée ne vienne contrebalancer son poids politique à lui. Et même s'il ne pourra pas se représenter, je ne suis pas sûre qu'il ait très envie qu'un bloc LR vienne renforcer Édouard Philippe et faire un contre-pouvoir.
Jupiter n'a pas envie de se soumettre au parti, quoi.
Alors Jupiter règne seul, c'est même le principe de Jupiter. Et donc, je ne vois pas Jupiter se transformer en une espèce d'Angela Merkel, nouvelle formule. J'y crois assez peu. Donc, les Républicains, aujourd'hui, jouent leur survie avec une partie. Et malheureusement, si on voit l'exemple du Parti socialiste, c'est très
mal. Ça les terrorise ?
Oui, oui, parce que je ne suis pas certaine que ce soit qu'une question d'incarnation, parce que le parti est divisé. Et donc, leur seul atout, c'est de négocier, entre guillemets, leur implantation locale, leurs élus locaux, leurs législatives, en se disant LREM a échoué à exister en tant que parti, donc on va leur faire cette force d'appoint. Mais il va falloir voir si Emmanuel Macron...
En restant bloqué et non pas en cédant individuellement aux appels d'Emmanuel Macron.
Il faudra un, que la discipline marche et deux, que Macron a envie de discuter.
Alors, c'est justement, ce qui est assez amusant et paradoxal, c'est que ce que propose en réalité Jean-François Copé, hérité du gaullisme, c'est ce que de Gaulle appelait le régime des partis.
Ouais,
exactement. C'est contre ça que le gaullisme s'est constitué, contre le régime des partis. C'est très difficile à réaliser en France. Pourquoi ? Parce qu'on est en régime présidentiel et pas en régime parlementaire, ou plus exactement en régime chauve-souris, mi-présidentiel, mi-parlementaire. Mais surtout présidentiel. L'idée qu'ont les chefs de parti, ça serait de faire ce qui se passe en effet en Allemagne ou en Belgique, ça a pris 500 jours la dernière fois, que les chefs de parti se mettent autour d'une table et fassent un pacte de gouvernement ensemble. Mais sauf que c'est incompatible avec le fait que le pacte démocratique en France, c'est celui qui a été passé entre le président et les Français directement. Donc, on peut pacte sur pacte, c'est compliqué.
Imaginons, parce que Caroline Michel-Aguirre disait, mais ça, Marine Le Pen, ne l'enterrons pas, n'enjambons pas ce second tour. Est-ce qu'on ne pourrait pas même imaginer, je fais la science-fiction, une Marine Le Pen présidente, et ensuite un raz-de-marée LR, mais old school, à l'Assemblée nationale, et donc, au fond, un Jean-François Copé qui impose une Marine Le Pen directement en cohabitation.
Je ne crois pas, parce que d'abord, LR a quand même pris hier deux gros obus sous la ligne de flottaison. Ils ne sont pas en position d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. D'autant plus qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont en réunion au bureau politique rue de Vaugirard et ça va exploser. Il va y avoir du sang sur les murs parce qu'entre les pro-Macron, les pro-abstention et les pro-Le Pen, il n'y a à peu près aucune voie de négociation possible.
Alors justement, on regarde Valérie Pécresse hier qui n'a pas cherché à maquiller sa défaite. On la sentait émue. On écoute cet extrait.
J'ai dû batailler sur deux fronts, contre le camp du président sortant et contre celui des extrêmes, alliés en la circonstance pour diviser et battre la droite républicaine. Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, je n'ai pas réussi, dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre. Ce soir, le réflexe du vote utile a joué à plein et le peuple de France a voté et son verdict s'impose à nous. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective.
Étienne Girard, elle sonnait sincère, authentique, beaucoup plus qu'à Porte de Versailles, là, pour le coup.
Ah, tout à fait. C'était son meilleur discours de campagne, si j'étais un peu provocateur. Voilà, c'est ce que je dirais. La vérité, c'est que LR, ils ont un vrai problème de corpus idéologique. C'est que les électeurs, aujourd'hui, ce qu'ils trouvaient hier chez LR, ils le trouvent ailleurs. Les férus de libéralisme économique, ils sont partis chez Macron. Et c'est une partie très importante de l'ex-électorat Fillon. En fait, il y a eu un déplacement de voix chez Macron. Les gens plutôt de gauche votent désormais plutôt Jean-Luc Mélenchon. Et les gens plutôt libéraux économiques, ils votent Fillon, ils votent Macron. Et puis les gens qui veulent de l'ordre, qui veulent du nationalisme, il y en a eu un peu chez Marine Le Pen, qui augmente son score aussi pour ça. Et puis, chez, évidemment, Éric Zemmour, qui recrute ses 7% d'électeurs essentiellement dans les rangs de l'ex-LR. Donc, que faire demain? Quelle priorité choisir? C'est pas évident. En fait, tout se passe comme si l'époque avait choisi de disloquer cette famille idéologique qui ne correspond plus aujourd'hui totalement aux aspirations des électeurs, qui ne sont plus et libéraux et férus d'ordre, mais plutôt l'un ou l'autre avec une vraie dominante, et donc voilà, qui vont chez Zemmour et Macron, mais plus chez LR, qui a en plus et aura un problème d'incarnation, ce qui est toujours majeur pendant l'élection présidentielle.
Ce qui est assez intéressant, c'est que ce phénomène de montée aux extrêmes, avec une extrême gauche puissante, une extrême droite puissante, et l'obligation pour les partis modérés de se coaliser, c'est un phénomène qui se généralise en Europe. Vous l'avez en Allemagne, vous l'avez en Espagne, vous l'avez en Belgique. Ça n'est pas une exception, totalement une exception française, cette montée aux extrêmes.
Caroline Michel-Aguirre, est-ce que aussi, bon, au-delà de ça, c'est ce matin Le Parisien qui titre Valérie Pécresse « Coule les Républicains ». Si ça avait été un autre candidat qui aurait fait une autre campagne, la droite, à un moment, on se souvient du slogan de Valérie Pécresse, « La droite est de retour ». Elle y a cru, la droite. Hein. Et puis ça se termine avec son héros, Nicolas Sarkozy, sifflé la semaine dernière de Versailles.
Et Nicolas Sarkozy qui n'a pas voulu choisir clairement avant le premier tour. Écoutez, moi, elle n'a pas fait la meilleure campagne du monde, Valérie Pécresse. Je pense que ça a été assez dit. Est-ce que quelqu'un d'autre qu'elle aurait pu s'en sortir? Je ne suis pas certaine. Au sens où les Républicains, pas plus que le Parti socialiste n'ont été lucides sur le fait que, et c'est ce que a dit Étienne Girard, sur leur fait que leur offre politique était déjà en partie siphonnée par Emmanuel Macron. Et puis il y a une autre erreur politique majeure collective dans cette campagne, c'est l'apparition d'Éric Zemmour. Parce que je me souviens très bien quand Éric Zemmour déboule à la rentrée dernière, les Républicains qui, quelque part, souriait en coin en disant...
Ça va affaiblir Marine Le Pen.
Exactement, on laisse faire, on n'en a rien à faire, elle ne prendra pas chez nous, c'était faux.
Ils ont même cru que c'était leur assurance vie.
Oui, ils se sont dit,
si l'électorat d'extrême droite est coupé en deux, on passe devant.
Donc, je veux dire, il y a quand même une responsabilité collective des Républicains qui ne sent plus le pays, de la même manière que les socialistes ont perdu pied, et leur ancrage local n'est pour l'instant qu'une survivance, et pas, alors je ne veux pas généraliser, il y a sans doute des Républicains qui ont compris ce qui s'était passé, mais collectivement, ils n'ont pas su offrir une alternative à Emmanuel Macron, et ils en payent le prix, quelle que soit l'incarnation, je crois.
Alors, le parti, les Républicains, va-t-il, vous le disiez, hein, ce matin, il y a une réunion du bureau politique, va-t-il se scinder en deux avec une partie chez Macron et l'autre partie chez Éric Zemmour? Ben justement, je vous propose d'écouter Éric Ciotti. Hier, on voit de quel côté il penche, on l'écoute.
Ces Français, moi, je ne les qualifie pas d'extrêmes, je les respecte.
Mais au-delà de ça, quelle est votre consigne de vote, monsieur?
Je les respecte profondément. Je ne donnerai aucune consigne de vote. À quel titre donner une consigne de vote? Les Français sont libres. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron.
Alors, est-ce que tout ça préfigure une recomposition avec le flanc droit des LR qui
va
vers l'union de la droite?
La logique... Et ça ne se réalisera pas parce que la logique en politique, ça ne marche jamais. La logique serait qu'il se crée autour de Marine Le Pen, puisque c'est elle qui a pris le leadership, un grand parti de la droite nationaliste. Mais c'est compliqué parce que l'absorption de Zemmour sera difficile, parce que Zemmour s'est mis à son compte et il n'acceptera pas de passer sous les fourches lepénistes, parce que Ciotti lui-même compte peser. Donc, il peut se passer... Si, de l'autre côté... Macron réussissait à réaliser une coalition élargie, il n'est pas absurde de penser que l'ensemble des droites qui ont quand même pesé hier, si on agglomère Dupont-Aignan, Zemmour et Le Pen, on est à 33-35%, il ne serait pas absurde que se crée un grand rassemblement des droites autour des droites nationales.
Mais Étienne Girard, est-ce que là, ça va faire 15 ans sans gouvernement pour le parti LR, est-ce que ce n'est pas la culture, l'ADN de gouvernement de ce parti qui est en danger? Au fond, ça va devenir un parti, d'ailleurs, contestataire à l'image d'ailleurs d'Éric Zemmour qui dit non, ce ne sont pas des extrémistes.
Éric Ciotti.
Vous avez des problèmes avec
ça y est, moi je les ai déjà mariés.
Trop d'Éric.
Non, le risque, c'est de devenir l'équivalent à droite de ce qui est à gauche, le parti radical, qu'on appelle maintenant le parti radical de gauche. C'est-à-dire un ex-parti très important qui a donné énormément de chefs de gouvernement et qui devient un petit parti d'élus locaux que les Français ne connaissent pas et pour lesquels les Français ne votent pas, hormis à quelques élections locales. Voilà, c'est ça le spectre. Maintenant, le choix d'une certaine aile de s'orienter vers Marine Le Pen, il n'est pas du tout évident parce que les électorats ne sont pas les mêmes en réalité. L'électorat LR n'est pas
l'électorat
Marine Le Pen.
Plus âgé.
LR, et c'est un électorat, bah oui, plus urbain, plus bourgeois, plus âgé. L'électorat de Marine Le Pen, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique et qui ne recoupe pas l'électorat traditionnel de la droite. C'est un électorat ouvrier, employé, qui n'est même pas un électorat de petite ville. Je regardais les résultats dans les préfectures, les sous-préfectures. Marine Le Pen n'arrive en tête dans presque aucune d'entre elles, en tout cas très peu.
Donc territorialement, il est très marqué.
Mais il est extrêmement marqué, le vote Le Pen. C'est un vote de village et de petites communes. Ce n'est pas l'ère historique d'influence de LR. L'ère historique d'influence de LR, aujourd'hui, est dominée, et c'est très clair, par Emmanuel Macron. Donc, à part dans le Sud-Est, alors c'est pour ça qu'Éric Ciotti est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que, oui, il y a un sujet spécifique au Sud-Est, où là, pour le coup, oui, c'est le RN qui a pris l'électorat de LR. Mais dans le reste de la France, en fait, la question ne se pose pas tellement, et c'est pour ça qu'à court terme, sauf si Marine Le Pen gagne l'élection, et là, ça change tout parce qu'elle aura des postes à proposer, je ne crois pas du tout à une recomposition de la droite autour de Marine Le Pen.
Oui, quand je disais que la logique voudrait que la droite nationale se rassemble. J'étais évidemment dans l'hypothèse d'une victoire de Le Pen. Sinon, il ne faut même pas y penser.
Alors, il y en a un d'ailleurs qui probablement espère la défaite de Marine Le Pen pour exister, parce qu'il a bien l'intention de durer. C'est Éric Zemmour qui a dit hier: un grand parti est né et je suis là pour durer. Il a expliqué qu'on n'en était qu'au début de son aventure. On l'écoute.
Un an plus tard, nous voici finalement face au duel qui était annoncé depuis 2017. Alors, si électoralement rien ne change, politiquement, tout a changé. Tout a changé parce que nous sommes arrivés. Nous avons fait irruption dans la vie politique et regardez, nous avons dépassé les vieux partis moribonds. Nous avons fait en 3 mois ce qu'aucun politicien n'a jamais réussi en 15 ans. Nous avons construit le plus grand parti de France. À mes côtés, une jeunesse s'est levée. Cette jeunesse, c'est l'interdiction de désespérer, car elle ne disparaîtra pas. Les drapeaux qui ont flotté au Trocadéro ne s'abaisseront plus jamais. Nous nous projetons déjà vers l'avenir. Je ne m'en tiendrai pas là, car Reconquête n'abandonnera rien tant que la France ne sera pas reconquise.
Alors, Caroline Michel-Aguirre, que penser de ces 7%? C'est le dégonflement de la bulle Zemmour ou c'est non le début d'une aventure comme il le prétend?
D'abord, je crois qu'il faut prendre en compte l'impact très très fort de ce qu'a dit Éric Zemmour pendant cette campagne, qui n'a rien à voir avec ces 7%. On a quand même quelqu'un qui a été condamné 2 fois, incitation à la haine raciale et religieuse, qui a prononcé des mots qu'on n'imaginait pas prononcer dans la France, dans la Ve République. Beaucoup de témoignages de terrain me font penser qu'il a déverrouillé une parole raciste et agressive. Ça laissera des traces profondes dans l'unité républicaine. Et ça ne se mesure pas à ces 7%. Donc, d'une certaine manière, il a raison. Son message politique, malheureusement, a été entendu. malheureusement, pour ceux qui condamnent le racisme. Et c'est bien au-delà de ce qui pèse politiquement aujourd'hui. Pour ce qui est de son poids à lui, son pari est perdu, ça incontestablement. Il pensait être le point central entre cette droite Éric Ciotti et Marine Le Pen. Il n'en est pas le point central. Son destin personnel, je ne sais pas dire. On a très bien vu, en tout cas, que Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, et ce sera surtout intéressant de voir comment elle va bouger, elle, maintenant, s'était ralliée à lui parce qu'elle pensait que la prochaine fois, ce serait elle qui ferait pivot sur l'union des droites. Là, il va falloir savoir comment les uns et les autres se positionnent. Je ne sais pas répondre à cette question.
Bon, on passe... je vous propose de regarder, de nous intéresser à celui qui a failli créer l'événement hier soir. D'ailleurs, à un moment, au milieu de la nuit, on ne s'en est pas rendu compte, mais pendant qu'on dormait, Jean-Luc Mélenchon n'était plus très loin d'accéder au second tour et de battre Marine Le Pen. Finalement, Jean-Luc Mélenchon a acté sa défaite et il a fait un discours hier soir empreint de lyrisme et de poésie. On l'écoute.
Ce matin, il faisait beau à Marseille. Sur la mer fuyante, les rayons du soleil bondissaient d'une vague à l'autre. Ce matin, tandis que je me préparais à entrer dans cet événement dont je ne savais rien, me sont arrivés bientôt les échos de l'Oyapock, frontière française sur le Brésil. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte! Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille, et la suivante, autant qu'il y en aura. Regardez-moi. Les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Hein. Faites mieux. Merci.
Claude Veil, qu'en pensez ? En Ile-de-France, il est à égalité avec Emmanuel Macron. Hein. Ça traduit quoi, ça ? Ils ont fait tous les deux 30,2%. Hein.
La phrase importante, c'est « faites mieux ». C'est une passation de témoin. Il y avait là la dramaturgie, l'intensité émotionnelle même des adieux de Barbara ou de...
Derrière, il y avait une dame en pleurs.
De nos grandes stars. C'est une sortie en apothéose, c'est une défaite victorieuse. Puisqu'il améliore son score de la dernière fois, vous vous souvenez des fameuses 600 000 voix, là il sera à moins de 600 000 voix de la qualif. Et en même temps, il ne portait pas le deuil de cette défaite. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était sa dernière campagne, qu'il voulait finir en beauté, et que c'est une campagne de toute façon réussie. Il a réussi ce qui était son projet historique, quand il a quitté le Parti Socialiste, c'est de faire un parti révolutionnaire qui serait l'agrégateur de la gauche, qui serait la force dominante à gauche. Il ne faut pas oublier qu'il a créé la France Insoumise à l'époque, je crois que ça ne s'appelait même pas comme ça, j'ai oublié comment ça s'appelait. Il l'a créé contre le Parti Socialiste, pour prendre le leadership à gauche. Là, ce n'est même plus un leadership, c'est un monopole. Et d'ailleurs, un monopole qui a failli arriver au second tour, sans la candidature de Fabien Roussel, il aurait été au second tour. Donc, il peut sortir... Lui qui est obsédé par l'image qu'il laissera dans l'histoire, il peut sortir comme le grand leader de la gauche qui a raté la révolution, mais qui a éclairé les voies du futur. D'où le ton hugolien de cette...
Un peu too much ou bien non, ça fait du bien, un peu de lyrisme, de poésie.
C'est ce qu'aiment ses électeurs, d'une certaine façon, c'est ce qu'aiment les Français. Les
il
Français
apporte de l'intellectualisme
pas.
À la politique il, cite,
il apporte du lyrisme plutôt que de l'intellectualisme. Les vagues de Marseille éclairées par le soleil levant, etc. Il y a là une quelque chose de lamartinien même qui est au cœur de la politique française et historiquement et qui est aujourd'hui à peu près le seul à mettre en musique, à mettre en voix. Maintenant, faut pas se leurrer. Pour eux, ça va être très, très compliqué.
C'est ce que j'allais dire.
Parce que papy s'en va, il laisse une maison en plein rayonnement, mais qui pour prendre la relève ? Je ne voudrais pas faire injure à M. Quatennens ou Corbière, qui d'ailleurs vont être très vite en rivalité, mais ça va être un petit peu compliqué pour eux, les héritiers, de se hissé au niveau du fondateur de la dynastie de la société. Donc, en réalité, je pense que cette victoire, cette apothéose de Jean-Luc Mélenchon prépare des journées un peu compliquées à la France insoumise.
Oui, la France insoumise pourra-t-elle survivre à son créateur? En tous les cas, ça traduit quoi? Ça traduit une France aussi, un peu comme à droite, on voit bien qu'il y a une radicalité qui se pousse. À gauche aussi, d'ailleurs François Hollande dit mais le programme de Mélenchon, c'est pas possible. Hein. Il l'a dit sur France Inter, mais il y a une soif de radicalité qui s'exprime à travers ce succès des idées de Jean-Luc Mélenchon.
J'ai un doute là-dessus en réalité. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon, les scores dans des villes réputées modérées, qui votent au centre, voire au centre droit. Jean-Luc Mélenchon est en tête à Strasbourg. Jean-Luc Mélenchon est en tête à Toulouse. Jean-Luc Mélenchon est en tête à Nantes, qui ne sont pas des villes de gauche radicale. Il est au coude à coude avec Emmanuel Macron, tenez-vous bien, à Lyon et à Bordeaux, qui ne sont pas des villes où la gauche radicale fait des bons scores.
Et habituellement, il est à 30% à Paris.
À 30% à Paris. Ce que ça veut dire, c'est que, à mon sens, c'est pas un électorat de gauche radicale avide de révolution et de radicalité, en tout cas dans son immensité, qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est la gauche traditionnelle qui s'est retrouvée dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, notamment les nouvelles générations, les jeunes qui ont voté de façon extrêmement massive pour Jean-Luc Mélenchon et qui ne souhaitent pas forcément faire tous la révolution. En fait, il y a un petit décalage entre l'image de Jean-Luc Mélenchon et l'électorat, ces 22% qui ont voté pour lui. Et ça, c'est un vrai point fort pour Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il a réussi à rassembler vraiment davantage que son étiage habituel auquel on s'attendait. Mais ce sera demain un vrai questionnement pour ses forces, pour la France insoumise. Est-ce qu'il faut continuer dans ce couloir France insoumise ou est-ce qu'il faut s'ouvrir et construire, ce que dit l'électorat incite un peu à ça, construire un grand parti de la gauche avec d'autres forces, notamment des forces plus modérées. Le résultat de l'élection semble dire plutôt ça, parce que des électeurs plutôt socialistes, plutôt élevés, ont voté Mélenchon. Mais est-ce que les forces le voudront? Est-ce qu'on sera capable d'avoir cette maturité, cette volonté-là à la France insoumise? Ça, c'est un vrai questionnement.
Un mot sur Yannick Jadot, du coup, hein, puisque ça a été autant Jean-Luc Mélenchon a été la révélation de ce résultat d'hier. Yannick Jadot sous les 5%, 4,6%. Il a immédiatement appelé à voter Emmanuel Macron sans ambiguïté. On écoute Yannick Jadot.
J'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain.
Et immédiatement derrière, Sandrine Rousseau est venue relativiser ses propos en se montrant bien plus ambiguë. Immédiatement derrière.
Ce n'est pas au nom d'un simple barrage républicain qu'on peut nous demander à tous ces électeurs-là d'être le doigt sur la couture du pantalon.
Donc
et
vous êtes
de
contre
faire comme
ce barrage,
ça.
En fait.
Donc, moi, je voterai Emmanuel Macron et j'appelle à ce qu'il n'y ait aucune voix qui aille vers l'extrême droite. Mais maintenant, je dis aussi à Emmanuel Macron et je le regarde en face en lui disant « Maintenant, il faut que vous descendiez de votre piédestal. Vous n'avez pas fait campagne, vous n'avez pas respecté les Français et les Françaises. Vous avez eu une posture dominante et surplombante pendant toute cette campagne. Maintenant, la balle est dans votre camp et il va falloir aller chercher les électeurs de gauche et écologistes un par un, parce que sinon vous ne passerez pas et vous avez une responsabilité qui est historique.
Bon, Caroline Michel-Aguirre, qu'est-ce que vous en avez pensé quand on a vu hier ces deux séquences se suivre?
Elle n'a pas attendu que le corps soit froid pour l'assassiner un peu plus. Visiblement, les Verts vont être confrontés à un même dilemme, je dirais, que les LR, mais tout à fait de l'autre côté. C'est-à-dire que la partie la plus modérée, la plus verte de gouvernement, incarnée par Yannick Jadot, qui espérait, fort du délitement du Parti Socialiste, incarner une nouvelle social-démocratie, une social-écologie, visiblement a échoué. Est-ce pour des raisons de fond ou des raisons d'incarnation? On le saura plus tard. Mais en tout cas, Sandrine Rousseau fait le parti inverse, c'est-à-dire que l'écologie doit s'exprimer dans sa partie radicale. Et en cela, elle rejoint d'une certaine manière ce que vont faire la France insoumise. Donc les Verts vont avoir deux problèmes, un problème financier, tout d'abord, parce qu'en dessous de 5%, ils sont en déficit, disent-ils, d'au moins 2 millions. Donc il va falloir que leurs militants les renflouent. Et dans un problème de ligne, où visiblement deux lignes, ça on le savait depuis la primaire, s'affrontent. Sauf que la ligne qui a gagné a échoué à la présidentielle. Donc on peut imaginer que Sandrine Rousseau va revendiquer pour elle-même le nouveau leadership.
Mais là c'était encore une ligne non assumée en plus, parce que la bizarrerie, c'est qu'en réalité, Jadot faisait campagne à peu près sur la ligne de
Sandrine Rousseau.
Rousseau. Il a fait une campagne très à gauche, mais du coup, avec un coefficient d'insincérité comme Pécresse qui faisait boiter son discours, et avec cette situation terrible, c'est que chaque fois qu'il disait votez pour moi, de façon subliminale, derrière lui, il y avait Sandrine Rousseau qui disait non, votez plutôt pour Mélenchon. Il y avait ce double message qui était envoyé à l'opinion qui était terrible.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé donc à cette analyse des scores du premier tour. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je rappelle que l'Info s'éclaire est disponible en podcast audio gratuitement sur toutes les bonnes plateformes. Bonne journée et à demain pour une nouvelle émission.